Vous écoutez
RMC.
Allez, les drones de l'âme, c'est parti.
Ah bon, et Maradona, t'as dit, il a raison.
Mais là, c'est
tiens, tu vas parler de Maradona tout à l'heure, on va voir.
Deux poids deux mesures.
On va voir.
C'est vrai que là, il t'a calmé quand même.
Mais deux poids deux mesures, le patriotisme.
Ah non, mais j'attends de voir ce qu'il va dire sur Maradona. J'attends.
Deux poids deux mesures, j'assume.
J'attends. Et Lionel Messi aussi a marqué de la main.
J'assume, deux poids deux mesures.
Et Vata.
Et en plus, Thierry, c'est même pas un but en plus.
Non. C'est vrai.
C'est légèrement aidé. Ouais. Oh, franchement,
on s'en souviendra.
C'était un geste naturel.
Gala, et personne n'a oublié que. Ouais.
Bah, c'est, ouais,
mais tout le monde a oublié que c'était
en
fait.
On s'en souviendra. Mais en plus, il joue en Angleterre.
Ouais,
ça veut tout dire.
Ouais, c'est moi qui ai marqué.
Il joue en Angleterre, il a sa statue à Londres, ça veut tout dire.
Fred Hermel est parmi nous. Salut Fredo.
Ça veut dire que toutes les choses grandioses, mais aussi toutes les conneries que j'ai dites depuis 18 ans, vous avez encore. Olaticos.
Pas depuis 18 ans, Fred. Depuis l'année dernière.
Puis comme tu l'as dit, un sacré paquet, on n'a pas tout gardé.
Ouais. Non, c'est pour ça qu'il faut faire le tri.
Mais Fred, là, ça va, parce qu'encore, c'est un truc que j'assume totalement. Mais il y a les plans, surtout quand tu dis d'un joueur, celui-là, je le vois en équipe de France.
Ah, oui, oui.
Et puis, là, je t'annonce que.
Et il finit en division d'honneur.
Ça arrive à tout le monde.
En fait, tu veux dire que Francis Lalanne, quand il a dit que le Talek, c'était un
des meilleurs attaquants du monde.
Et le problème, c'est qu'il l'a dit quand il jouait à Orléans.
Le problème, c'est qu'il l'a dit il y a un an et demi.
Il joue avec son cœur.
Moi, j'étais sûr et je le clamais il y a 4 ans que l'après Ronaldo Messi pour le Ballon d'Or, c'était James Rodriguez Neymar. Hein, j'en étais persuadé.
Non. Toi, t'as dit une énorme connerie.
Laquelle?
Concernant un gaucher du Real Madrid.
Asensio allait devenir un grand joueur.
Voilà, qu'il avait comparé.
Le pauvre, il s'est fait les croisés.
Asensio.
Bon, c'est vrai.
On avait été d'accord ensemble. On avait dit que au moment où on l'avait dit, qu'Asensio était meilleur qu'Mbappé.
Ah bah, il était.
Moi, j'assume quand j'ai des conneries. Il y a pas de problème.
Sauf qu'il s'est perdu en route.
J'assume.
Il s'est perdu en route. Il a découvert la vie. Il a découvert la nuit madrilène. On est plusieurs à s'être perdu comme ça.
Exactement.
Sauf que moi, je fais de la radio, je joue pas au foot. Donc.
Et en plus, on assume.
Allez, passons à la suite. Moi, j'avais dit David Zitelli, Ballon d'Or à Strasbourg. J'avais 12 ans. C'était avec mes potes, donc ça comptait pas.
Il joue à Metz ou à Strasbourg?
À Strasbourg, à Metz, voyons.
Alors moi, j'ai demandé.
Il a joué à Metz, David Zitelli. Excuse-moi. Il a été meilleur à Metz.
82, stage Platini, les stages 10 Platini que j'avais fait. Platini arrive une fois dans la semaine. Et j'étais supporter de Tours.
Vous avez dit bonjour ou pas?
Ouais, bien sûr. On a joué
à Verraquet, bien sûr.
Et il arrive et je lui dis, tu pourrais pas venir à Tours? Et là, du Platini, tu vois, au lieu de dire, par exemple, il aurait pu dire, non, c'est genre, oui, pourquoi pas, mais non, enfin, sympa. Il fait, qu'est-ce que tu veux que je vienne foutre à Tours? j'avais 10 ans, le mec, il m'a séché, et il signait à la Juve, puisqu'il venait de Saint-Etienne.
Il a hésité entre Tours et la Juve. Il a hésité 2 minutes. Hein.
Faudrait qu'un jour, on ressorte les plus belles saucisses des uns et des autres. Parce que voilà, autant les assumer, quoi. Je pense qu'il y en aurait des belles. Hein.
Mais bon. Ouais.
Simone Romera est également là. Salut Simone!
Ciao, salut Simone.
Pas des saucisses en italien, non. Donc.
Toi, tu les manges, les saucisses.
Voilà, écoute, la saucisse à l'Ibra est très bonne, que c'est une petite ville à côté de Turin. Mais non, j'ai pas de bêtises, j'ai jamais dit que l'Italie allait à la Coupe du Monde ou des choses comme ça. Donc, je me souviens pas d'avoir dit l'Italie doit battre la Suède à tout prix, parce qu'il n'y aura pas de match. Non.
Non. Ça va alors. Ça va.
Écoute,
ça
va. Mais l'Italie gagne en Finlande.
Tant que tu vis bien, tu sais.
Et puis Julien Laurence également est là. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien.
C'est l'année compliquée pour toi, Julien.
Pourquoi?
C'est la première fois qu'on se parle cette saison. Bah, il va falloir confirmer. Hein. C'est bien beau de gagner.
Oui, c'est toujours le plus dur hein, de rester au sommet.
Ouais. Un coup comme ça sur un malentendu, là, oui, de victoire, oui.
Après.
Mais il faut confirmer sur la durée.
Non, tu sais. Une telle domination comme ça, ça peut pas être éphémère, c'est pas possible.
On fera les comptes.
Alors, messieurs, je pense qu'on va pas s'étendre mille ans sur vos sélections nationales ce soir, d'autant que Fred et Simone ont déjà à peu près tout dit hier,
réglé,
hein, des matchs de l'Espagne et de l'Italie. Juste un mot sur les Anglais en sélection. Donc, il y a match à nouveau demain. Qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir, Julien, sur la sélection anglaise?
Donc demain contre le Kosovo, effectivement à Wembley, pour l'instant sans faute pour les Anglais, 3 matchs 3 victoires. Contre la Bulgarie samedi, c'était plutôt une gentille promenade avec un triplé pour Harry Kane, et c'est le grand sujet de conversation ici en Angleterre. Est-ce qu'Harry Kane, qui aujourd'hui compte 25 buts en 40 sélections, réussira-t-il à battre un jour le record de Wayne Rooney qui est de 53 buts? On en parlera peut-être tout à l'heure un peu plus en détail, mais voilà, c'est le grand débat en ce moment qui fait parler les Anglais. Est-ce que Kane peut arriver au niveau de Rooney? Il a 26 ans, donc.
Juste un truc quand même sur l'Angleterre-Bulgarie d'il y a quelques jours. Les Bulgares, quand même des génies, les mecs, ils avaient décidé de relancer court, hein, donc dans leur propre surface, petites passes, machin, avec en face Kane, Sterling et compagnie. Donc autant dire que je pense que le coach a fait un excellent choix tactique. Ouais. Bravo, hein, bravo au coach bulgare. On peut le féliciter, le mec.
Ça dit, c'est intéressant que tu
parles. Tu un coup de couteau.
Non, mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que à force de dire qu'il faut du jeu, qu'il faut jouer. Tu as des équipes, même quand elles n'en ont pas les moyens.
Ils ne savent pas le faire.
Et il n'y a pas que ça. Même des équipes qui en ont les moyens, qui abusent. Tu regardes l'un des buts des Pays-Bas face à l'Allemagne. Et l'Allemagne, j'ai souvent trouvé à ce petit jeu-là une forme de prétention, là, pour le coup. Ils savent le faire, effectivement. Mmh. Mais il y a des moments où tu ne dois pas le faire. Et il n'y a pas de honte à jouer long. Enfin, tu vois, il n'y a pas de problème. Et ce systématisme qui fait que tu te dis, ah ben non, ben nous, on relance de toute façon, il n'y a aucun problème. Et y compris maintenant avec les 6 mètres, tu sais, qui ne sortent plus de la
plus, d'autant
parce
plus.
Que tu relances court, très court, et t'es toujours dans ta surface.
On va avoir quelques conneries.
Moi, je pense que
depuis.
c'est une sorte de mauvaise habitude, et effectivement, on va avoir des surprises.
Bon, je constate que Julien ne dit rien de ses dépendances, hein, écossaises et compagnie, parce qu'ils prennent que des tôles. Donc, bon.
L'Écosse, effectivement, ils ont cru à un moment pouvoir se qualifier, et là, ils prennent cher contre Kevin De Bruyne à lui tout seul, hein, presque. 3 passes décisives et 1 but. Et puis, contre la Russie, ça a été aussi compliqué le samedi soir ou vendredi soir, je crois. Et puis, l'Irlande du Nord a tenu en échec un petit peu l'Allemagne, hein. Ils y ont cru pendant une mi-temps. Et puis après un très joli but d'Alstenberg. Ouais, c'était pas loin. Ils se sont créé quelques belles opportunités. Et je pense que les Allemands vont s'en sortir, mais de justesse.
Ouais, là il y a 4-0 pour les Belges, donc et toujours 1-0 pour les Allemands.
2-0.
2-0 même.
2-0 pour les Allemands.
2-0 à l'instant. Nouveau but allemand. Pardon ?
C'est Gnabry.
Exactement. Ouais, qui a marqué, qui ressemble de très un peu à Diony, le Stéphanois.
Juste rapidement.
Mais vraiment, même pas avec les mêmes pieds, pardon.
Oui, Julien.
Juste rapidement, Serge Gnabry, qui était un joueur d'Arsenal n'a jamais vraiment utilisé. Il a été blessé longtemps et souvent, c'est vrai, mais que Arsenal a laissé partir et qui est rentré en Allemagne et avant de briller maintenant au Bayern Munich. Et le jeune Daniel Malen qui joue pour les Pays-Bas, qui était titulaire ce soir, pour sa deuxième sélection, qui était entré en jeu contre l'Allemagne vendredi soir, qui avait d'ailleurs marqué pour sa première sélection, était aussi à Arsenal chez les jeunes. Ça s'est aussi pas très très bien passé. Ils l'ont laissé repartir aux Pays-Bas, au PSV, où il fait un très bon début de saison. Et
c'est deux joueurs qui donc aujourd'hui. C'est un peu comme les jeunes du PSG, quoi.
Non, mais c'est surtout sous l'ancienne équipe dirigeante, parce que ces joueurs-là sont partis avant l'arrivée d'Emery, de Sagnelli et des nouveaux dirigeants. Mais c'est vrai que c'est là où tu te rends compte aussi que bon, parfois tu peux pas le savoir, hein, que ces joueurs-là vont exploser au moment où ils l'ont fait, mais tu aurais peut-être pu leur donner un petit peu plus de temps, un meilleur environnement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de voir Gnabry à ce niveau-là et Malen à ce niveau-là aussi, qui sont deux jeunes joueurs avec beaucoup, beaucoup de talent, c'est un petit peu dommage, c'était supporter d'Arsenal.
Oui, les Pays-Bas qui, un peu plus tôt dans la journée, ont gagné en Estonie, hein, pour ceux qui ont raté ça, 4-0. Et donc, j'aimerais que Fred nous raconte, depuis plusieurs jours, on le promet, ça y est, c'est le moment, la réconciliation Bale-Zidane. Fredo, que s'est-il passé ?
Eh ben, ils peuvent pas faire autrement. Voilà. On va dire qu'ils restent ensemble pour les enfants. vous voyez l'image ?
Convenance.
Voilà.
C'est en ça. Général, ce genre de plan, ça dure pas trop quand même. Hein.
Tant que ça tient jusqu'au mois de juin. Hein. Voilà. Ce qui s'est passé, alors, ce qu'il y a de fou quand même, c'est que quand on reprend les déclarations des uns et des autres de ces dernières semaines, c'est hallucinant qu'ils en soient là aujourd'hui et que Bale soit non seulement titulaire, mais aux côtés de Karim Benzema, le meilleur joueur madrilène du début de saison, quand même, hein, en match officiel. Bale voulait partir. Avec Zidane, c'est zéro communication. Zizou avait même dit, à la fin juillet, alors que le marché anglais était encore ouvert, hein, puisque c'est terminé le 8 août, et que le 2 septembre, le reste des marchés était encore ouvert, sauf le chinois qui s'est terminé début août. Et donc, Bale avait eu un plan en Chine, ça n'avait pas marché. Après, je te poserai la question, Julien. Le gros problème, c'est que les Anglais, personne n'a voulu de Bale, quoi. Et surtout, personne ne voulait de Bale à 15 millions nets par an. Zidane.
Attends, juste, alors, je te coupe à cela. Ouais. Julien, tu confirmes?
C'est ça, tout à fait. Tout à fait.
Ça, c'est incroyable.
Et c'est vrai que Manchester United aurait été le club vraiment pour lequel ça aurait pu le faire, parce que même s'ils aiment en ce moment recruter des jeunes joueurs, c'était parfait pour eux, et lui n'avait pas trop envie d'aller dans le nord de l'Angleterre, et eux surtout financièrement pour eux, même s'ils en ont les moyens, c'était très peu envisageable de les voir faire une opération pareille.
Alors, on était allé tellement loin entre les deux hommes que fin juillet, il y avait eu l'Audi Cup, vous savez, à Munich. Mm-hmm. match, parce que cette marque de voiture, j'ai l'air de chaussures, de voiture, elle est commune au Bayern, etc. et tout ça. Bref. Et Bale avait dit à Zidane, non, mais je me sens pas bien, je suis stressé, toutes ces histoires sur mes transferts, tout ça, je préfère rester à Madrid. Ok, bah, tu veux rester à Madrid, tu restes à Madrid. Sauf qu'au moment où le Real jouait contre Galatasaray, on avait vu Bale jouer au golf à côté de Madrid. On pose la question à Zidane, bah ouais, ok, il a joué au golf, ben j'espère qu'il s'est entraîné quand même notre absence, voilà. Et Zidane qui avait dit, bon écoutez, si Bale parle demain, ce sera mieux pour tout le monde. On en était là à la fin juillet. Sauf que je pense sincèrement que la fermeture du marché anglais, au-delà du fait qu'il n'y avait pas grand monde, le fait que le marché anglais se termine plus tôt, ça n'a pas aidé. Parce que voilà, on sait très bien comment ça peut se passer, l'histoire Pogba, la dernière minute, vous savez, le 2 au soir, on sait jamais, voilà. Le marché chinois, il y avait une offre d'un club chinois, sauf qu'il était prêt à assurer le salaire de Bale, mais voulait un transfert gratuit. C'était hors de question pour le Real de ne pas tirer au moins 30 ou 40 millions, parce que un joueur qui était acheté 91 millions, c'était un aveu d'échec pour le Real, qui était, c'était brader un joueur, c'était pas possible. Bon, sauf que, à la fin, à peu près une semaine avant la fin du marché des transferts, les dirigeants ont dit à Zidane, écoute, faut que tu fasses avec, il va pas partir. Zizou n'est pas un dogmatique. Zizou, on a tous connu dans nos championnats José Mourinho. Mourinho, un joueur comme ça, il le laisse dans les gradins, il fait la guerre, nana. Zizou dit, bah il est là, je vais en profiter, quoi. Surtout que Bale avait quand même fait une bonne préparation de saison, justement parce qu'il pensait partir, il pensait quitter le Real. Bon, et Zidane, vraiment, il aime pas Bale, Bale n'aime pas Zidane, mais les deux se rendent compte qu'ils sont condamnés à s'entendre pour leur bien personnel et pour le bien collectif. Ce qui fait que Bale a joué, Bale a été bon, il en est à 2 buts et 1 passe décisive. C'est le meilleur avec Benzema qui est aussi à 2 buts et 1 passe décisive. Physiquement, il est bien. Et surtout, il y a un petit changement. Zidane dit des belles choses sur Bale. Ouais, il a bien bossé, etc. Et surtout, et j'en terminerai là avant d'avoir votre avis, Bale, lundi dernier, il y a une semaine, a fait un tweet. C'était l'anniversaire, le 6e anniversaire de sa signature au Real. Bale a fait un tweet merveilleux. Quel bonheur, quelle fierté de porter le maillot blanc depuis tout le temps.
Est-ce qu'il l'a fait en espagnol?
Non, il a son anglais, il faut quand même pas déconner.
Hein, non, je me rappelle une anecdote, Fred. On disait, écoutez, Bale, là, dans les mois qui précèdent, donc quand ça n'allait pas, on disait en plus, Bale, il a rien fait pour s'intégrer, il sait toujours pas se commander de la bouffe en espagnol.
Ben, c'est moi qui l'avais dit, parce c'est que c'est quelqu'un qui l'avait dit au sein du club. Au bout de 6 ans, il ne sait toujours pas commander un petit déjeuner en espagnol. Voilà. Mais voilà, ça veut dire que lui aussi, il a mis de l'eau dans son vin, les deux, ont fait des efforts. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Mais pour les 3 premiers matchs de la saison, ça fonctionne.
Et là où il a eu de la chance aussi, Fred, c'est qu'Hazard s'est blessé. Là où il a eu de la chance aussi, c'est qu'Hazard s'est blessé. Qu'à un moment, Zizou,
c'est Hazard qui s'est blessé.
Oui, parce que Hazard il se blesse jamais. Oui. Notre Hazard.
Non. Mais c'est là où il a eu de la chance, c'est que Hazard se blesse, effectivement.
Mais sincèrement, je pense que vu les entraînements qu'il faisait, il aurait joué aussi. Surtout quand Zidane, il prépare vachement les matchs. C'était à Vigo.
Bah heureusement, il est entraîné.
Un match. Non, mais je veux dire, il y a des entraîneurs qui, quel que soit l'adversaire, mettent toujours les mêmes mecs. Le premier match, c'était à Vigo. C'était vraiment une équipe pour jouer au camp en contre. Bale, la vitesse de Bale, face à une équipe assez ouverte, qui les espaces étaient parfaits. Donc voilà, il y a tout un alignement des planètes qui a fait que Bale est aligné. Mais bon, surtout, le plus important, la base, c'est que Zidane est pragmatique et que Bale lui aussi. Donc ça peut peut-être.
De toute façon, ils n'ont pas le choix. Et tu l'as dit. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais moi, je reste persuadé que c'est pas bon signe pour le Real. Du moins, tant que Bale va jouer, c'est pas bon signe. Alors, je veux bien qu'aujourd'hui, il fasse des différences, parce que Hazard est blessé.
Mauvais signe.
Non, mais ce que je veux dire.
Rames, c'est pareil aussi, parce qu'ils n'ont pas réussi à le vendre. Donc.
Non, mais voilà. Donc, mais qu'il soit encore là. Alors, je veux bien que là, il fasse des efforts. Zidane, lui, il est là. Il l'a à dispo. Donc, en plus, Hazard est blessé. Donc, il le fait jouer. Et puis, l'autre, il marque. Donc, il va continuer à le faire jouer. Le problème, c'est que on connaît l'investissement de Bale sur la durée. Je pense que ça va pas aller et qu'au d'un moment il y aura des craquages parce qu'il jouera moins, parce que je te dis il y aura une équipe qui va se dégager, ce qui est pas l'équipe d'aujourd'hui. Je pense que l'équipe titulaire d'aujourd'hui ne sera pas celle de dans 2 ou 3 mois.
Il met les mêmes joueurs pour le mercato, hein.
Et non, mais c'est pour ça et tout ça va faire qu'il va y avoir quelques tensions. je le souhaite pour Real Madrid, mais garder ce genre de joueur, c'est de la gangrène dans le vestiaire.
Quand ça... tu peux pas faire autrement. Gars,
non, non, mais je sais, Fred. Non, mais attention. Ouais. Hein. Je dis pas que c'est de la faute de Zidane ou de l'équipe ou du président. Il est pas parti. Il a un salaire incroyable.
Il a un contrat.
Mais oui.
En fait, Bale devait une revanche.
Mais tu sais, c'est un peu.
Ça, c'est du grand Florian.
C'est un peu comme le PSG, hein. Il y a des joueurs qui sont pas partis, et tu verras. Quand ça va aller un petit peu moins bien, tu verras le vestiaire.
Dans quelques instants, on est de retour avec le reste de l'actu. On va parler Italie, l'Angleterre, l'Espagne et Paulo Breitner qui va nous rejoindre dans quelques minutes également. Il attendait la fin du match entre l'Allemagne et l'Irlande du Nord. L'Allemagne a gagné 2-0. On se retrouve tout de suite dans l'After.
RMC, 21h30. L'After Foot, Gilbert Bribois.
Ils sont là, Jérôme Rantaine, Florent Gautreau, Jonathan Macardy, plus ses drôles de l'âme. Tiens, Paulo Breitner arrive, le match de l'Allemagne est terminé. Salut Paulo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo. Dans quelques instants, tu vas nous analyser ce match. Je rappelle qu'il reste quelques minutes pour jouer au grand jeu du soir, pour gagner des cadeaux, des téléphones, des télés. Bref, on a du lourd encore à vous offrir. Vous envoyez RMC par SMS.
C'est qui paye.
Au 732-16. Si, il y a encore les ordis. Il y a encore tout. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos SMS. Juste avant, j'aimerais que Simonet, on revienne avec toi sur une histoire qu'on n'a pas trop évoquée. C'est la sortie de la liste de Ligue des Champions de Emre Can et Mandzukic à la Juve, parce que encore aujourd'hui, ça fait beaucoup parler à Turin. Hein.
Oui, avant de commencer ça, pour finir l'histoire à Gareth Bale, parce que c'est drôle. Vous savez que les clubs chinois qui devaient l'acheter, c'était les Jiangsu Suning, c'est-à-dire le club, okay. Le deuxième club des propriétaires de l'Inter, les premiers clubs aujourd'hui, c'est propriétaires de l'Inter. En Italie, il y a eu toutes les rumeurs, ils vont prendre Gareth Bale pour le prêter à l'Inter. Et donc, c'était un
gros bluff
du mercato. Mais vous savez quel attaquant a pris les Jiangsu Suning à la fin du mercato, comme ils n'ont pas réussi à faire Bale?
Vas-y, dis-nous.
Ivan Santini.
Ah, l'ancien de Caen.
Ouais, le café.
Ouais.
Ouais, c'est oui. Pas exactement le même niveau quand même.
Ah ouais, non, je te confirme.
Il a quand même mis une quinzaine de buts en Ligue 1, les gars. Ouais, à quand?
Attends, tu l'as vu.
Ah, oui, mais là, il a mis des doublures sur la Ligue des Champions.
Déjà, il n'en a pas mis 15, ça c'est sûr. L'année dernière, sur une saison, 15 buts à Caen.
Non, c'est pas l'an dernier, c'est il y a 2-3 ans.
Oui, non, mais même l'année en Ligue 1, pas 15 buts, c'est pas possible, Jonathan.
Plus de 10 alors.
Ouais.
Avec Caen, il a marqué 27 buts en tout.
Il est resté combien?
Il est resté 2 saisons. Après, donc, il est parti à Anderlecht.
C'est pas mal.
Où il a moins marqué qu'à Caen.
Mais 27 buts, toute compétition.
Hein. Oui, toute compétition.
Ouais, d'accord.
Bon, alors, attends, il a fait une saison à 15 buts en Ligue 1.
15 buts.
2016-2017, Ligue 1, 34 matchs.
C'est fini chez les espoirs, Loïc Braillet.
Terminé dans ce match amical face aux Tchèques. Et très bonne deuxième période. Victoire 3-1 des Bleus avec un doublé d'Hudson Edouard notamment et un but de Mbeumo. Les qualifs arrivent au mois d'octobre. Et franchement, il y a du beau matos à exploiter pour Sylvain Ripoll en vue de se qualifier pour l'Euro 2021.
Alors, avant que Paulo nous raconte l'Allemagne, bravo. Donc Emre Can et Mandzukic, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on dit à Turin, Simonet?
Alors, les conséquences, on était plutôt lourdes, surtout pour Emre Can. On rappelle un faux sort quand ça commence les stages de l'Allemagne. Donc, Emre Can dit dans une entretien avec plusieurs médias devant caméra qu'il ne savait rien, que c'était une surprise, qu'il a eu en communication de une minute à la peine avec Maurizio Sarri, donc très énervé. C'était vraiment une surprise pour lui. Après, on savait qu'il y avait, je l'avais même dit plusieurs fois, qu'il y avait un groupe de 3-4 milieux qui risquait d'être dehors. La blessure de Chiellini après a un peu aidé, parce que c'était un défenseur qui était sorti en plus, que c'est bien sûr Chiellini. Donc entre Betancourt, Matuidi, Emre Can, on savait qu'une devait rester dehors, donc que lui ne savait rien, c'était un peu étrange. Quelques heures plus tard, et probablement après un coup de fil de quelqu'un de très important à la Juve, il change de version avec un tweet, et dit pour moi, la Juve a toujours été à côté de moi quand j'ai eu des soucis de santé.
Ouais.
Il avait une opération à la thyroïde, si je ne me trompe pas, donc il change totalement de version, mais après, il est très 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 en colère pour le fait d'être venu à la Juve la saison dernière pour être protagoniste. Il n'est pas dans la liste Champions League, un peu comme Mandzukic. Et surtout, la chose qui peut faire beaucoup de dégâts pour moi, c'est que, selon mes informations, ce que sera aussi un peu en Italie, si Maurizio Sarri considère de ne pas avoir forcément besoin d'un joueur, et on l'a vu dans les passés avec Chelsea et Naples, c'est pas qu'il fait des cadeaux dans les petits matchs.
Non, lui, il a il fait pas tourner. Groupe.
Il fait tourner pas énormément. À la Juve, était obligé de faire tourner parce que t'as une qualité, à mon avis, supérieure à tout ce que t'as eu à Chelsea, bien sûr, à Naples. T'as une
marque. Rappelle-toi, à Naples, tous les joueurs qu'il avait fait acheter à De Laurentiis, qu'il a jamais fait jouer.
Mais bien sûr, mais une chose, ce n'est pas faire jouer Marco Rogge, et l'autre, ce n'est pas faire jouer Matuidi ou Rabiot. Oui, c'est une chose très, très différente. Donc, on risque de voir un Mandzukic longuement sur le banc de touche cette saison, une Emre Can qui va être dépassé par, je sais pas, Aaron Ramsey, ou qui va obéir en cours, ou qui va considérer être son doublure en plus derrière Khedira, qui est devenu incontournable.
Ouais.
Mais quand même,
il sera en tribune. De toute façon,
mais pas en Serie A où t'as les bancs de touche avec 11-12 joueurs. Mais déjà, t'es pas dans la Ligue des Champions. Et pour un joueur qui arrive de Liverpool et qui a un salaire, après, il a un salaire énorme, 6 millions et demi.
Mais t'es arrivé libre, joueur, non?
Il est arrivé libre, il a été payé 16 millions d'euros entre commission à lui et ses agents, donc l'investissement n'a pas été énorme, était même mineur de celui fait pour Rabiot, mais il a un salaire de ouf, donc il faut trouver un club après pour partir en janvier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce que Sarri est capable de faire tourner et comment deux joueurs si importants, surtout Mandzukic, vont avoir une influence peut-être négative dans le vestiaire d'ici en janvier.
Ouais, c'est sûr.
Mercato va être ouverte.
Messieurs, dans quelques instants, on est de retour. Polo pour l'Allemagne. Polo veut également parler de la Pologne et de l'Autriche. Hein, parce que c'est aussi.
L'Autriche,
c'est...
oui.
Bah oui. L'Autriche, ça progresse en Autriche, le foot, attention. Hein. Polo va nous dire pourquoi dans quelques instants. Et évidemment, Fred Hermel toujours là, Simone Rovera. Bah oui. Et Julien Cazard qui nous rejoint. Allez, Jérôme, merci beaucoup.
Bonne soirée. Bonne
tu seras là demain soir hein, pour analyser avec brio France Andorre.
Il respecte les matchs internationaux. Ne commence pas à faire comme Daniel Riolo.
Non, mais je respecte
les
matchs. Que j'aime bien.
Ben ouais, ben, alors, avec brio, ben oui, bien brio. Sûr, avec brio.
Tiens, à propos de matchs internationaux, il y a un match amical pour l'Algérie ce soir, qui est les champions d'Afrique, qui joue face au Bénin. Un match amical ce soir à la mi-temps, il y a 0-0. A tout de suite dans l'after, Jérôme, à demain.
Je pense qu'aujourd'hui on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Jonathan McCarthy, Florent Gautreau, les drôles de dames. Et Julien Cazard qui nous rejoint. Salut Julien.
Bonsoir à tous, il a toutes.
Salut.
Il a toutes, dans le dame.
Exactement. Alors, Fred Hermel est là, Simone Rovera, Julien Laurence, Polo Breitner. Polo, raconte-nous un peu l'équipe d'Allemagne là, face à l'Irlande du Nord. C'était comment?
Écoute, on respire quand même un petit peu après la belle déculottée et la belle déconvenue face aux Pays-Bas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu deux mi-temps très très différentes. Chapeau l'équipe d'Irlande du Nord à Belfast. Une première mi-temps, j'ai presque envie de dire un retour vers le passé, puisqu'on a vu quand même un football assez rustical, comme on dit en allemand, et rudimentaire, rustique, mais sacrément agressif au sens noble du terme.
Genre Best a arrêté, hein.
Pardon? Et en fait, c'était vraiment une première mi-temps assez intéressante avec, encore une fois, comme contre les Pays-Bas, un gros défaut de cette nouvelle génération. C'est qu'évidemment, techniquement parlant, elle est largement au-dessus de l'Irlande du Nord, sauf qu'elle va pas au contact, elle va pas au duel. Et donc, comme les Irlandais, on les connaît un petit peu quand même, ils savent très bien aller chercher la balle. Ils ont fait ils ont fait un pressing très très haut qui a beaucoup embêté l'équipe d'Allemagne en première mi-temps. Et si tu veux, il y a eu 0-0 à la mi-temps. On souffle un peu des deux côtés. On s'attendait à ce que les l'Irlande du Nord reviennent à la charge en deuxième mi-temps, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu un super but d'Alstenberg, le latéral gauche de la sélection allemande, qui remplaçait Schultz blessé, mais aussi de Leipzig. Pourquoi je dis Leipzig? Il y a quand même trois joueurs de Leipzig qui est dans le 11 de départ. C'est pas neutre quand on pense peut-être à l'avenir de l'Allemagne et du football allemand. Et puis surtout, l'Allemagne, encore une fois, comme à la Coupe du Monde 2018, comme à l'Euro 2016, a un nombre incalculable d'occasions, ils ont 6-7 quasiment en 10 minutes, et finalement, il n'y a que 1-0. Et c'est que Gnabry, 10 sélections, 9 buts au passage, qui finalement solutionne la partie en l'emportant à la 93e minute. Donc, victoire méritée sur l'ensemble de la rencontre. Techniquement parlant, il n'y a pas photo, évidemment, mais il y a ce problème de cette jeune génération. Yogi Löw l'avait dit en conférence de presse, il faut absolument qu'on augmente notre agressivité dans les duels, etc. Et là, je crois que c'est un vrai problème.
Mais c'est exactement ce qu'on se disait ce week-end, Polo, après le dernier match de l'Allemagne, c'est que cette équipe manque cruellement de leader et de personnalité.
Alors, il y a ça, évidemment. On parle de Joshua Kimmich, etc. Mais il faudrait aussi parler de Marco Reus, qui a 30 ans, de Toni Kroos. Pardon ?
Il n'y a pas d'aboyeur. Il n'y en a plus.
Il n'y a pas d'aboyeur. Mais bon, alors là, alors, justement, Jonathan, tu donnes un très bon exemple parce que vous avez peut-être entendu les débats classiques qui reviennent régulièrement entre qui doit être dans les buts entre Manuel Neuer et Ter Stegen. Rappelez-vous, Ter Stegen vient de faire une interview où il dit très clairement qu'il est aujourd'hui le numéro 2, qu'il est évidemment pas content d'être le numéro 1, etc., mais qu'il comprend les décisions. Mais où est-ce que vous avez vu ça dans la sélection allemande qu'un gardien numéro 2 veut pas piquer la place du numéro 1? Oui, Lehmann Kahn, ça vous dit quelque chose?
Bien sûr. Polo.
Oui.
Lopez Tatarusanu.
C'est le meilleur gardien du monde, Ter Stegen. C'est-à-dire que il a pu, mais tellement de matchs. De toute façon, c'est soit Messi, soit Ter Stegen, par moment, quand le Barça va pas bien, qui tienne la baraque. Ouais. Il te fait gagner des matchs. Vraiment.
Enfin, c'est très étonnant. T'as Manuel Neuer aujourd'hui. En face.
Neuer aussi, hein.
Ouais. Il est toujours aussi fort Neuer quand même.
Ah bah, oui, il a mis un an. Il n'a pas été bon.
Non mais Neuer, oui, mais avant qu'il prenne les buts, Neuer il leur sauve déjà des trucs.
Et ce soir encore, il y a un contre un entre Washington contre Neuer, c'est Neuer qui gagne le duel. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, vous vous rappelez des duels entre Lehmann et Kahn, entre Köpke et Kahn pour avoir la place de leader dans les années 80.
Sur leader, Polo, il y a autre chose, je l'ai évoqué tout à l'heure et qui m'a frappé dans le match contre les Pays-Bas. J'ai regardé un peu là, d'un œil le match contre l'Irlande du Nord. Ce qui me choque aussi, entre guillemets, j'avais vu à l'Euro 2016 la même chose, donc on a changé quelques cadres et quelques joueurs et il y a toujours cette... J'appelle ça un peu de la prétention, c'est-à-dire que tu te dis ouais mais nous on est quand même l'Allemagne donc on joue comme ça, donc nous c'est bon, c'est parti, on développe, bah oui, on se fait rentrer dedans, on est limite mené 1-0, on a encore une occasion sauvée par Neuer d'ailleurs au passage, mais on continue quand même, on joue, on s'en fout, c'est pas grave, on met pas d'impact mais ça va passer. Il y a toujours cette impression que
je suis pas persuadé que ce soit ça. Si on revient sur le match contre les Pays-Bas, n'oublions pas que l'Allemagne mène logiquement. Alors il faut parler des schémas de jeu. L'Allemagne jouait en 3-4-3 contre les Pays-Bas qui est supposé le nouveau schéma de jeu imprégné par l'équipe de France, en gros, pour jouer contre les grosses nations, c'est-à-dire qu'on se découvre pas trop, mais on a des flèches devant pour aller très vite. Et ce soir, on a joué avec une équipe beaucoup plus joueuse, justement, contre les supposées petites équipes. N'oublie pas, Florian, que l'Allemagne mène 1-0 contre les Pays-Bas. Si Marco Reus met le 2-0, on n'en parle pas on ne sait pas du tout la même rencontre. Ce qui est sûr, et moi, ce qui me...
Ça, c'est pas les Allemands de dire ça. Ouais. Ça, on dirait les Français dans les années 80.
Je suis pas certain.
Ouais, mais si Amoros, ça frappe, elle passe pas à côté, puis si, il glisse Lidbarski,
la faiblesse de la défense centrale allemande me semble un peu rédhibitoire quand même.
Mais non.
Le Matra Racing surtout.
Mais oui.
Mais non. Laissez-les grandir un petit peu.
Tu voulais dire un mot de l'Autriche?
Alors c'était important parce que l'Autriche avait mal débuté ses qualifications. Ils ont, de mon point de vue, une très très belle génération. Merci Salzbourg et merci évidemment tous les Autrichiens qui débarquent en Bundesliga.
Ça progresse le foot en Autriche quand même. Hein.
C'est surtout qu'ils travaillent très bien. Nous, on parle des centres de formation. Eux, ils ont leurs académies, etc. Ça fonctionne très bien. Ils ont surtout Salzbourg qui produit beaucoup de joueurs. Ne l'oublions pas, que ce soit des joueurs étrangers ou des joueurs internationaux autrichiens. Et surtout, ils ont une très belle génération qui mériterait d'aller à l'Euro. Il fallait aller en Pologne. N'oublions pas qu'ils avaient perdu le match aller 2-0. Essentiellement, une victoire polonaise liée à l'expérience. Et là, ils ont fait 0-0. Ils ont dominé globalement la Pologne, même s'il y a eu un poteau, notamment de Grosicki, l'ancien Rennais. Ils ont fait le match qu'il fallait pour se relancer. Je crois que la Slovénie l'a emporté d'ailleurs contre Israël ce soir au dernier moment, ce qui complique encore les calculs.
Oui, 3-2.
Mais je peux vous assurer que j'aimerais bien voir cette équipe autrichienne à l'Euro 2020 parce qu'il va falloir se la taper.
C'est qui le nouveau Andreas Herzog? C'est pas lui la star autrichienne des années 80?
Non, il y avait Anton Polster.
Polster, c'est l'attaquant. Herzog, c'était l'ancien joueur de Brême notamment, ouais. Et qui était le grand meneur de jeu.
Il y avait Michael Kanzel.
Très belle
exactement.
Coupe.
Frisouillante.
Ah oui, la grande époque des frisouilles allemandes. Moi, j'aimais bien ces petites frisouilles.
Barcelone, par exemple. Donc aujourd'hui, le meneur de jeu, c'est Sabitzer, même s'il joue plutôt sur le côté droit. Mais n'oublions pas que Lazaro joue en Italie. Alaba, vous le connaissez. Arnautovic devant, même s'il est en Chine aujourd'hui. Ouais. Ça reste le buteur. Vous avez Baumgartlinger, Leimer, le joueur de Leipzig. Vous avez le jeune Poch que vous avez vu l'année dernière avec Hoffenheim en Ligue des Champions, Dragovic, etc. Hinteregger qui était sur le banc ce soir. Vous avez Leiner que vous connaissez peut-être, qu'on appelle la machine, qui débarque de Salzbourg, qui est aujourd'hui à Mönchengladbach. Non, c'est une très très belle équipe.
Clément est là. Clément veut poser une question à Fred Hermel au 32-16. Oh. Salut Clément.
Salut les gars.
Alors là Clément,
c'est cool de parler à son excellence Fred Armel. C'est un honneur pour moi.
Chevalier,
c'est la première. Mais ouais, c'est la première les gars aussi.
T'es ch'ti, non?
C'est vrai que ça, après on se lasse, mais c'est vrai que la première soirée avec moi, c'est toujours sympa.
Ça fait bizarre. Non, Fred, j'ai une petite question qui a rien à voir avec la trêve internationale. C'est en fait sur Barcelone. Il y a une question qui, il y a un sujet qui m'interpelle tous les ans. Donc Barcelone a toujours un très gros 11, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un bon banc au niveau de la défense, un bon banc au niveau du milieu de terrain. Et pourquoi chaque année, on n'arrive pas à avoir plus d'un remplaçant sur le banc dans le secteur de l'attaque? Une fois, il y avait eu Pedro qui était le seul remplaçant. L'année d'après, on avait eu Sanchez qui était le seul. Après, il y a eu Boateng l'année dernière, j'en oublie sûrement. Là, c'est Dembélé qui est du coup le seul remplaçant. T'as Asensio sur le banc, tu peux avoir aussi Vasquez, Jovic, voire Mariano. Et au Barça, on n'a pas un seul joueur, on va dire fiable. J'ai la liste là.
C'est une très bonne question. Je vais te donner la réponse.
On peut pas avoir au moins deux joueurs. Fiable sur le banc. Et
je vais te dire, c'est une bonne question, mais la réponse, tout simplement, c'est qu'ils savent qu'ils vont pas jouer, donc personne veut venir. Et oui, quand t'as Suarez, Messi, maintenant t'as Griezmann, c'est très compliqué. Tu sais que tu vas jouer trois matchs, quoi. Donc, c'est ça. Le problème, c'est que t'as déjà une attaque de folie. Alors, c'était le cas avant, du temps de Neymar. Ensuite, la saison dernière, il y avait Coutinho, il y avait Dembélé. Là, il y a plus Coutinho, mais il y a Griezmann.
Il y avait Alcacer à un moment aussi.
Alcacer, il a pas joué.
Ouais. Et là, on voit ce qu'il fait en Allemagne, oui.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des gros problèmes d'intégration, mais pour pouvoir s'intégrer, il faut avoir du temps de jeu. Il l'avait pas vraiment, ce temps de jeu. Voilà. Donc, c'est ça. C'est que c'est très, très, très compliqué de faire sa place, quoi. Voilà. Tu vois, Boateng, il a joué quoi? Trois matchs.
Clément!
Quelques matchs, quoi. Mais
supporter
vraiment, il n'a pas
quel
existé,
club
quoi.
Je suis supporter de Lyon, et à Lyon, il y a plus de bancs, parce qu'on a Cornet, Terrier et Gouiri sur le banc.
C'est vrai, c'est vrai. Tiens, dis-moi.
Donc, on va dire que Lyon est meilleur que le Barça, c'est ça?
Notre petit questionnaire de l'after, là, on va le faire vite fait avec toi. Si je te donne un pouvoir magique, tu peux faire venir à Lyon n'importe quel joueur d'aujourd'hui, d'hier, à Lyon, n'importe lequel, n'importe quelle nationalité, tu prends qui?
Je prends Messi.
Pareil pour l'entraîneur, tu prendrais qui?
Silvinho? Non, Guardiola.
Guardiola. Et si je te donnais le pouvoir de changer une action d'un match de Lyon dans le passé, un truc, tu peux refaire l'histoire et changer quelque chose, tu changerais quoi?
J'avais envie de dire le pénalty sur Neymar, mais non, je vais finalement dire.
J'ai revu l'action,
le but qu'on se prend contre le Milan AC, d'Inzaghi, oui. Le but du 2-1, parce que derrière, sinon on passe, et voilà. Ah, le but de la 86e qu'on se prend, voilà.
Tu veux dire le premier after de l'histoire.
Voilà.
C'était ce jour-là. Et si je te permettais, avec tes pouvoirs magiques, de faire disparaître de la surface de la planète football un acteur, un joueur, un entraîneur, un journaliste, ce serait qui?
Un club.
Alors, surtout pas Daniel Riolo. Je dirais plutôt Marco Materazzi.
Très bien.
Bravo Clément.
La cicatrice est là encore.
Merci Clément. Salut à toi.
Merci les gars.
Salut Clément.
Très sympa.
Simonet, t'es vexé?
Il est super sympa, Materazzi.
Mais non, mais pauvre Marco, la vie sans Marco serait pas la même.
Oui. C'est vrai qu'il est. Et le palmarès de l'Italie non plus.
Cette question. Ouais. Faire disparaître un mec.
Il était sympa Clément.
Moi, j'ai le dernier qui sort. Faire disparaître gentiment. On lui souhaite pas la mort.
Ouais, il disparaît. Il meurt pas, mais il disparaît.
Non, il aurait pas existé en gros, c'est ça.
Ouais,
c'est le pire. Moi, j'aime bien les auditeurs comme Clément, les mecs qui m'adulent comme ça, ça comble ma solitude du lundi soir.
Il t'a vu avec la licorne, ça a flashé.
Alors,
direct.
Continuons notre petit tour d'Europe. Julien voulait nous dire un mot de Watford, mais pourquoi donc?
Ah, pas du tout.
Ah non, pardon.
Laurence. Ah oui, parce qu'il y
aura moins de non. Premier entraîneur limogé cette saison à Watford, Javi Gracia, qui est pourtant un bon entraîneur, qui avait fait une excellente saison la saison dernière.
C'est Gracia. Tu as raison de bien le prononcer, c'est vrai.
Et donc après 4 matchs, après 4 journées, il a pris la porte, un seul point, un match nul à Newcastle cette saison, alors que l'année dernière, ils avaient fait une saison exceptionnelle, Watford, avec une finale de Coupe d'Angleterre. Certes, une humiliation contre Manchester City, mais ils étaient quand même arrivés jusqu'en finale à Wembley. Et une excellente saison en Première Ligue aussi, en championnat. Et c'est vrai que c'est un peu dur quand même, hein, de la part de Watford et de la famille Pozzo, qui est propriétaire de ce club, comme de l'Udinese et comme de Grenade en Espagne, d'avoir attendu simplement 4 journées pour le virer. Il a été remplacé par Kike Sanchez Flores, l'ancien entraîneur de Watford, qui avait lui aussi fait une très bonne saison, en tout cas 6 très bons premiers mois. Après, ils avaient fini 13e, ils avaient fait une demi-finale de Coupe d'Angleterre. Flores, qui lui, Fred, tu confirmeras, ouais, mais qui est aussi d'une famille madrilène de football, dont Di Stefano était son parrain. Ouais, je pense que ça, ouais, je crois que sa tante est une grande star du flamenco espagnol aussi.
Non, sa tante, c'est
son père était défenseur.
Son père était joueur, lui il a été formé au Real, mais surtout Kike Sanchez Flores est le neveu de Lola Flores, qui est la plus grande chanteuse de folklore espagnol de l'histoire, quoi.
Enfin, oui.
Ah bah c'est
une famille espagnole, très très
c'est une famille gitane, hein. Ce sont des gitans espagnols et voilà, c'est l'Édith Piaf espagnole, quoi. Ça ouais, c'est impressionnant, quoi.
Très sympa, le meilleur jeune, et lui il est très gentil.
Ouais, il est vraiment sympa.
Il a beaucoup de classe. Ouais. Il a beaucoup de classe aussi. Et c'est vrai qu'il avait été, encore une fois, hein, je pense que la famille Pozzo l'avait écarté un petit peu trop rapidement, à mon goût. Et qu'il revienne, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Même si Gracia, effectivement, c'est un peu dur pour lui aussi.
Messieurs,
il est rentré de Chine il y a deux semaines, Kike Sanchez Flores. Il devait passer à Madrid. Là, puis finalement, il est resté à Londres. Bah, oui.
Gilbert, juste pour finir rapidement sur les entraîneurs limogés.
Oui.
Chez les bookmakers, les prochains sur Solskjaer. La liste avec la plus grande cote, Solskjaer, exactement. Pochettino aussi, hein, à 6-1, et Steve Bruce, l'entraîneur de Newcastle, à 6-1 aussi. Donc Bruce, Solskjaer et Pochettino, selon les bookmakers, les prochains qui sont en tout cas sous pression.
Messieurs, il nous reste 10 minutes ensemble.
J'ai une question.
Oui, Polo.
Pour Julien.
Oui, vas-y, Paulo.
Que dit la presse et Julien sur le Brésilien Joelinton de Newcastle ?
Alors, pour l'instant, il a pas fait grand chose encore, pour être honnête avec toi. C'est un gros transfert, hein, 40 millions d'euros d'Offenheim vers Newcastle. C'est pas un cadeau non plus d'arriver à Newcastle avec Steve Bruce comme entraîneur. Je pense qu'il lui faudra un petit peu de temps, mais en tout cas, il a la bonne attitude. Il donne beaucoup sur le terrain. Ouais. Mais de toute façon, c'est pas un grand buteur non plus. Hein, c'est pas un mec qui va marquer 30 buts dans une saison, mais il a commencé doucement. C'était un petit peu mieux. T'as raison, le week-end dernier, avec son but. Mais c'est un environnement assez compliqué quand même pour lui.
D'accord.
Messieurs, il nous reste donc 10 minutes à peu près ensemble, et je sais que tout le monde, mais absolument tout le monde, a un avis sur Diego Maradona, y compris Jonathan McCarty. Jingle.
Valère Germain, il est encore plus nul que Mitroglou.
Juste parce qu'il est gentil, qu'il zozote, que vous l'aimez bien, arrêtez, il est nul.
Bon, c'est pas le sujet.
Oui.
Tu voulais parler de Maradona, et volontairement, on va en parler avec les drôles de l'âme. Donc, on y va, et chacun pourra donner son avis.
Bon, c'est vrai qu'il est arrivé au Gymnasia de la Plata, ça a fait l'événement.
On en a parlé hier soir dans l'after, exceptionnel.
Commenté en direct par le commentateur de foot, 20 000 personnes dans le stade. Il y a même sa fiancée qui apparemment va prendre des responsabilités avec l'équipe féminine du Gymnasia. Et puis tout le monde est assez enthousiaste, 3 000 nouveaux Inchas qui se sont abonnés au stade, des gens de tous les clubs qui débarquent à la Plata pour voir Maradona. Il y a même des joueurs de River Plate qui sont venus juste pour voir Diego fouler la pelouse du stade qu'on appelle El Bosque. Et puis au final, en fait, moi ce que je dis, c'est juste, je comprends pas pourquoi il va là-bas, pourquoi il va dans ce bourbier. Bon, alors on va éclaircir tout de suite quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Maradona, sa carrière d'entraîneur, c'est zéro. Alors bon, sa dernière expérience au Mexique est plutôt positive. Il prend les Dorados, ils sont derniers. Ils arrivent quand même à les amener en finale de play-off avec un jeu relativement correct. Chacun aura son avis sur ce qui s'est passé avec l'Argentine, mais c'est le sélectionneur argentin qui a le plus haut pourcentage de victoires, avec 75% de victoires.
Ah oui.
Ça n'a pas toujours été si négatif que ça. Et surtout, là, il arrive, il est bien entouré. Il a des adjoints béton, des mecs qui ont entraîné déjà des clubs au pays. Donc de ce côté-là, ça va se passer.
Ça a l'air très bien.
Après, là où je te rejoins, Julien, c'est que le problème, c'est que
c'est vrai que le pauvre n'arrive plus à marcher.
Il est dans une forme physique qui est déplorable. On voit déjà que, il y a des polémiques qui sont en train de naître, notamment avec son ami de toujours, Juan Sebastián Verón, qui est président du club ennemi de la Plata, les Estudiantes. Juste pour résumer, les Gymnasia, on appelle ça le club des tripiers, parce que c'est le club des ouvriers. Et les Estudiantes, c'est le club, des étudiants, des étudiants de médecine. Donc, t'as vraiment cette opposition prolétaire-bourgeois qui va, certes, très bien à Maradona. Alors Maradona, on va dire que oui, il a tout à gagner. S'il arrive à les sauver, parce que là ils sont mal en point, s'il arrive à les sauver, ça va contribuer à sa légende. Mais attention, il y a une chose qu'on réalise pas ici en France, c'est que le football de club en Argentine et notamment l'environnement médiatique, il est sans pitié. Alors déjà, Maradona, lorsqu'il était à la tête de la sélection argentine, il s'était mis les médias à dos. Vous vous rappelez le soir où il se qualifie avec ce but de Palermo au Pérou, où il fait le phoque sous la pluie. Vous vous rappelez de ses paroles un petit peu vulgaires.
Ah bah c'est pas un petit peu, j'ose même pas les redire en espagnol. Donc
À l'encontre des journalistes. Là, il va rentrer dans un univers, dans un paysage médiatique qui, voilà, c'est il va être passé à la moulinette. Ses moindres faits et gestes vont être épluchés et décortiqués. Et attention, il y a déjà eu des petites fissures dans le mythe Maradona. Je vous rappelle juste qu'à un moment, il n'était pas vraiment le bienvenu à la Bombonera. Et oui, quand il s'était permis de critiquer Juan Román Riquelme. Et là, franchement, je pense qu'il a plus à perdre qu'à gagner. Donc, je comprends pas pourquoi il prend ce club-là. Après, c'est génial de le voir sur un banc. Ça crée de l'engouement autour d'un championnat argentin qui est bien mort.
En gros.
Mais il a plus à perdre qu'à gagner.
Pour schématiser, il y en a qui trouvent ça génial, puis il y en a qui trouvent ça pathétique, parce que quand on le voit, le pauvre, il a du mal à marcher.
Franchement, si lui, il peut reprendre un club, je pense que Schumacher, il peut reprendre un volant chez Ferrari à la place de Vettel. Sans pas problème niveau.
Et tu sais, juste pour après dans ce sens-là, le pathétique de tout ça, c'est que t'as l'impression que Maradona, s'il prend ce challenge-là, qui est un challenge qui est compliqué, hein, ils ont 11 points de retard déjà rattrapés en 18 journées pour arriver à se maintenir. Tu sais, c'est la moyenne de points sur les 3 derniers championnats. Bon, ce qui est un peu pathétique, c'est que t'as vraiment l'impression qu'il reprend ce challenge-là, parce que s'il n'existe pas médiatiquement, t'as l'impression qu'il est mort, le mec.
Génial ou pathétique de voir Maradona là où il est. Alors avant de faire le tour des drôles de l'âme, Florent.
Non, moi je trouve ça un peu pathétique. Moi, les images, ce que vient de rappeler là, Jonathan aussi sur ces phrases et ces frasques récentes. C'est pas les frasques du Maradona joueur. C'est des frasques qui font un peu point, un peu pitié, un peu celle d'un homme aigri. Puis surtout concrètement, sportivement, tactiquement, c'est pas un coach. C'est pas un coach en fait. Donc moi, si tu veux, qu'ils reviennent là pour le spectacle argentin là ce week-end, c'était marrant, mais à aucun moment j'ai cru d'ailleurs que depuis qu'il était coach qu'il pouvait redevenir le coach d'une équipe importante, et en plus de le voir dans cet état physique, je t'avoue que ça me casse un peu ça me fait un peu mal au cœur.
Julien.
Ah ben moi j'ai dit chez Dugas, j'ai comparé ça au dernier concert de Johnny, où quand le mec il se pisse sur les pompes avec un déambulateur et que tout le monde dit yeah Johnny sauf que le mec bon voilà, il est carbo, donc en fait tu l'exposes comme une espèce de relique.
Julien, c'est toujours un peu triste. Va critiquer Johnny quand il fait son dernier concert là, vraiment les médias, surtout on sait que le clubisme est très développé. L'Argentine, c'est plus un football de club que de sélection, même s'il y a beaucoup d'engouement autour de la sélection. Alors, là, le moindre faux pas, il va se faire défoncer.
Les drôles de l'âme, Fred, t'en dis quoi, toi?
Je pense que de toute façon, Maradona, il y a bien longtemps qu'il ne s'appartient plus. Il appartient à une légende, à une histoire, à un passé, à un peuple. Voilà. Je pense que c'est sa seule manière de survivre encore.
C'est ça, ouais.
Polo ?
Écoute, je m'en fiche complètement. Moi, Maradona, c'est le FC Barcelone 82-84, lorsqu'il jouait avec Bernd Schuster. Le reste, je m'en fiche complètement.
Julien ?
Moi, ça me fait kiffer de voir ce genre de réaction-là dans le stade hier et tout ça. Après, je trouve que c'est vraiment triste, effectivement, l'état physique dans lequel il est. Et je pense qu'il a plus grand-chose à apporter tactiquement comme entraîneur, à part effectivement dans le man management, il va faire rêver ses joueurs, mais je sais pas si ça peut te faire gagner des matchs.
C'est son adjoint qui va faire l'équipe, c'est Gallego Mendes qui a fait des belles choses à
l'époque. Il s'est bien entouré. Je trouve ça un peu triste, quoi. Je trouve ça un peu triste.
Non, mais vous comprenez que... Oui, pardon.
Moi, je pense qu'un mec qui te fait rêver comme Maradona, c'est magnifique. Après, j'espère que Jonathan pourra nous éclairer un peu sur Christian Bragarni, qui l'a mené là-bas, l'homme plus fort, plus puissant de football.
C'est le Pinizavi argentin, on va dire.
Qui s'y a tout fait pour faire venir une mec comme Maradona dans un club qui est très petit, mais a des énormes ambitions. Vous aussi, sa relation avec Macri, si je ne me trompe pas. La sœur de Macri, chose comme ça.
Mais attends, Simone.
Donc c'est un club qui va devenir hyper puissant si tu prends Maradona.
On verra les premiers transferts.
Macri, président de l'Argentine, qui est l'ancien président de Boca Juniors.
On verra les premiers transferts. Si par exemple, comme la rumeur le veut, Ricky Centurion arrive au Gymnasia. Bon, on regardera qui sont ses agents. Si Bragarni qui est pas un peu voilà. C'est vrai que il y a des 2-3 petites questions qui se posent là-dessus. Mais ça fait bizarre, par exemple, qu'un mec comme Ricky Centurion soit annoncé du côté du Gymnasia.
C'est qui celui-là, Ricky Centurion?
C'est un joueur qui a joué, qui a éclos au Racing, qui a jamais vraiment confirmé parce qu'il est un peu fou, quoi. C'est un super bon joueur, mais il est totalement instable.
Peut-être avec Maradona, c'est le bon mariage.
C'est cool parce que c'était vraiment l'année ou jamais pour Marseille de le récupérer, Maradona. Depuis le temps qu'il devait venir, je pense que là, c'était jouable. Au niveau transfert, au niveau oseille, c'était jouable.
Avec Drogba en avant.
Ah bah tiens, ouais. Tu parles de Marseille, t'as pas pu t'empêcher. On a une petite surprise pour toi, Julien, dans quelques minutes. Cher drôle de l'âme, merci beaucoup.
Merci. Merci.
Ciao, gracias.
Salut les gars.
Allez, bravo pour la sélection des auditeurs ce soir, magnifique.
Oui, oh bah, Fred, tu sais qu'ils t'aiment tous. Allez, on se retrouve dans quelques instants.
Adios.
Mais d'abord, le grand gagnant du soir de notre jeu, il s'appelle Sébastien. Salut Sébastien.
Ouais, bonsoir Gilbert.
Sébastien, tu as été tiré au sort. Laisse-moi te dire que tu gagnes un téléphone portable Huawei ce soir.
Oh, cool, merci beaucoup.
Ben voilà, c'est cadeau de l'after pour la rentrée.
Merci beaucoup Gilbert, c'est gentil.
À très bientôt Sébastien, merci d'avoir joué.
À bientôt, bonne soirée à vous.
Prochain jeu demain matin sur RMC et demain soir dans l'after parce qu'on a encore plein de cadeaux, notamment des cadeaux pour le quiz.
Tu téléphones et quand tu gagnes un téléphone. J'aime bien le principe déjà en général. Je trouve ça cool.
Bah, t'as peut-être un téléphone tout pourri qui est proche de la fin et puis
t'es bon. Tu veux dire qu'il y a un téléphone tout pourri, rappelle-le.
Moi j'en veux bien un téléphone si c'est possible.
Regarde, tu as un téléphone tout pourri.
Mais je croyais que dans ta famille on les fabriquait les téléphones. C'est quoi ce bordel?
Non, on répare les écrans.
Ah, vous réparez les écrans.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.